Depuis quelques mois, on va continuer avec, vous en souvenez? Oui? Galates, chapitre 5, verset 22, le fruit de l'esprit. Hein? Voilà, on s'était arrêté, on avait vu le fruit, je ne vais pas rappeler tout ce qu'on a vu. Ensuite, toutes les qualités, une partie des qualités du fruit de l'esprit. La première, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. La dernière, c'était la bonté. Et on va regarder ensemble la bienveillance. La bienveillance. Je ne m'étais pas trop arrêté sur la bienveillance. On en parle. La Bible parle de la bienveillance. Mais je voudrais juste... Alors j'ai condensé, hein, parce que bon, j'avais réfléchi un peu plus longtemps. Donc j'ai essayé de condenser un peu plus. Et on va voir ensemble ce que la Bible dit concernant la bienveillance. J'ai regardé déjà la signification, l'étymologie de la bienveillance. En latin, c'est benevolentia, qui a donné bénévole. Et c'est un état qui veut rien que le bien pour autrui. En fait, pour simplifier, la bienveillance, c'est faire le bien à autrui. Amen. C'est faire le bien aux autres. C'est faire le bien pour les autres. Et je citais donc le fruit de l'esprit. Le Seigneur prend l'exemple d'un fruit avec toutes ses qualités, mais là c'est le Saint-Esprit. Les qualités du Saint-Esprit, c'est de nous donner l'amour, la joie, la paix et aussi la bienveillance, c'est-à-dire bien veiller sur les autres, bien respecter les autres, c'est ça que ça veut dire. Hein. Et le Saint-Esprit, quand il agit en nous, quand le Saint-Esprit travaille nos cœurs, non seulement il nous donne l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, mais il nous donne aussi la bienveillance, c'est-à-dire de veiller sur les autres. Amen. Alors, de suite, il y a ce verset qui s'est imposé. Bon, je vais en citer d'autres de versets, mais c'est ce passage qu'on trouve dans l'Épître de Jacques, au chapitre 4, au verset 17, quand Jacques dit « Celui qui sait faire le bien, donc c'est manifester la bienveillance. Celui qui sait faire le bien, connaissez la suite? Et qui ne le fait pas, il commet un péché. » Et là, quand il est question du bien, il est question de bienveillance. Et on sait, on va pas se voiler la face, hein, on sait très bien quand des fois on fait le bien et puis quand c'est pas trop bien. Hein. Et le Seigneur dit, ben, quand tu fais le bien, ça va. Quand tu es bienveillant envers les autres, ça va. Mais quand tu fais pas le bien, tu pêches, tout simplement. Tu pêches. Alors, j'ai voulu regarder un petit peu ce que la Bible dit concernant le croyant. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Je voudrais juste citer deux versets. On va le voir ensuite avec les exemples. Mais par exemple, dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 7, Paul dit ceci, c'est un petit peu le constat de la bienveillance en nous. Paul dit ceci dans Romains chapitre 7 verset 18. Il dit ce qui est bon, je le sais n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi, je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Et on retrouve encore ce texte, je l'ai mis sur mes notes, dans Paul aux Romains, au chapitre 3, verset 12. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Aucun qui manifeste. Alors je me suis dit, mais alors le constat, est, pour nous, il est négatif. Il est négatif. Et j'ai voulu prendre à partir du début, on va regarder à partir du début, à partir de la Genèse, pour voir un petit peu ce que la Bible dit concernant la bienveillance. Et je me suis rendu compte que à l'heure d'aujourd'hui, la bienveillance, elle se manifeste, mais elle est irrégulière, elle est spontanée et elle est diluée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, eh bien, on sera dans la bienveillance, et puis, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, hein, des fois, on est poussé à faire le bien, on va faire le bien, on marche dans la... On veut manifester la bienveillance, et puis il y aura d'autres moments où On ne sera pas disposé à cette bienveillance. Et ça, c'est ce qui va nous poursuivre tout au long de notre vie. Ça sera comme un combat. L'apôtre Paul le souligne dans les textes qu'on vient de lire. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Il sent en lui qu'il y a de loin. Je pensais à ce passage aussi. Ce matin, en réfléchissant, je pensais encore à ce passage qui m'est venu à l'esprit. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16. Vous savez, quand Jésus dira « Qui dit-on que je suis ?» Vous vous rappelez les apôtres diront « Eh bien, les uns disent que tu es Élie, les autres disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es l'un des prophètes. Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre dira, mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est là qu'il y aura la première parole sur l'Église. Et Jésus dira, mais ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel, car tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça, c'est le côté bienveillance. Et juste après, vous rappelez ce qui se passe? Vous rappelez ce qui se passe? Quand Jésus va commencer à parler de sa mort, et Pierre dira, mais que cela ne te plaise, Seigneur, moi je vais mourir pour toi. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Arrière de moi, Satan. Et c'est là qu'on voit qu'on peut être, on peut avoir des élans. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi ça m'est arrivé, hein, des élans de bienveillance. Et puis, des fois, hop, on est comme freiné dans notre bienveillance. Hein, on est comme dilué, comme irrégulier. Et là, on voit très bien Pierre qui est dans un élan. Et puis, à côté de ça, le Seigneur lui dira, mais arrière de moi, parce que tu sais pas, tu, ce sont les pensées des hommes, etc. etc. Et on a besoin donc d'être sensible concernant cette bienveillance. Alors, j'ai regardé la parole de Dieu, je vous disais il y a quelques instants, par rapport je voulais partir du début, donc du livre de la Genèse, et je me suis rendu compte qu'en effet, la bienveillance, elle a existé dans les deux premiers, uniquement dans les deux premiers chapitres du livre de la Genèse. Chapitre 1 et chapitre 2. Il n'y avait pas le mal. Le mal n'y était pas. Le mal n'existait pas. Et je me suis... Donc, je regarde... Le mal n'existait pas. Dieu va créer l'homme à son image, selon sa ressemblance. Il va créer la femme à partir du côté de l'homme ou de la côte. Ça dépend les versions. Et là, environ à peu près une centaine d'années, il y aura que la bienveillance. Il n'y aura que le bien. Chapitre 1 et chapitre 2, il n'y aura que le bien. Et on sait qu'à partir du chapitre 3, et quand, alors je relisais, vous connaissez tous ces histoires, on va y revenir, mais on va voir que bien là, c'est vraiment irrégulier, ils auront des élans de bienveillance, et puis il y aura aussi malheureusement des élans de malveillance. Pendant le chapitre 1er et chapitre 2, bienveillance, pureté, sans péché, l'homme devait vivre dans la bienveillance, pour l'éternité. L'homme ne devait pas mourir. Hein. Et donc, Dieu va créer l'homme, Dieu va créer la femme, et ensuite, il va les placer dans le jardin. Et je m'imaginais, c'est peut-être simpliste ce que je dis, mais je suis convaincu que Adam était bienveillant envers Ève, et que Ève était bienveillante envers Adam. Il n'y avait pas de problème. Hein. Je pense que... Adam devait aller vers sa femme et il dit, ouais, qu'est-ce que tu veux que j'aille te chercher quelques fruits? Je simplifie, hein. Voilà. Et il y avait une bienveillance. Et on sait qu'ensuite, au chapitre 3, eh bien, c'est là que le Satan s'est incarné dans le serpent. Le texte nous dit qu'il s'est incarné et puis il a été vers la femme. Et c'est là qu'on voit déjà que, Ève, quand on lit le texte, chapitre 3, verset 6, il est dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle a mangé. Et c'est à partir de là qu'on voit qu'il n'y a plus de bienveillance. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle mange et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Il me semble que s'il y avait eu de la bienveillance, il aurait dit, bon, ben moi, je mange le fruit, mais je ne vais pas aller en donner. Hein. Et la bienveillance, c'était faire le bien pour autrui. Et là, on sait ce qui s'est passé. On retrouve ce mal et ce bien dans le chapitre 3 et au verset 22. Je voulais le souligner. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Et c'est là qu'ils vont mettre les chérubins, garder le jardin, etc., etc. Mais au départ, il y avait cette bienveillance pendant un bon temps. Là, il y avait une bienveillance. Donc là, la bienveillance aurait fait que, eh bien, si Ève a pris le fruit, elle n'aurait pas été lui donnée. Ensuite, on voit la réplique. Hein, vous savez qu'à un moment donné, le Seigneur va aller dans le jardin, il va les chercher, ils vont se cacher. Et Dieu va s'adresser à Adam, il dit, mais où tu étais? Je t'ai caché, j'ai eu peur, etc. Et comment tu as su que tu étais nu? Et là, c'est la réplique qui manque de bienveillance. Il dit ceci, l'Éternel, Dieu dit, qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Et la femme répondit, le serpent m'a... Vous voyez, il n'y a plus de bienveillance. C'est la femme. Et après, la femme dira, c'est le serpent, etc., etc. Et on sait ce que ça a coûté. En tout cas, de la douleur pour les mamans. Hein, et puis, tu gagneras ton pain à sueur de ton front, etc., etc. Pourquoi? Parce que ils ont manqué aussi de bienveillance. C'est à partir de là qu'on voit que, enfin, quand on fait le constat, qu'on regarde dans des exemples de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament, il y a eu des élans de bienveillance, mais les mêmes personnages ont eu des élans aussi de malveillance. Allez, sans aller trop loin, chapitre 4. C'est le moins qu'on puisse dire. Il est dit que Adam va connaître Ève, ils vont avoir deux enfants, Caïn et Abel. Et dites-moi, est-ce qu'il y a eu de la bienveillance de la part de Caïn? Hein? On sait ce que Caïn a fait. Hein? Suis-je le gardien de mon frère? D'ailleurs, le Seigneur lui rappelle. Je vais vous le souligner. Il me semble qu'il est question du bien là. Il lui dit ceci. Mais il ne porta pas regard favorable sur Caïn. Et l'Éternel dit, Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, on retrouve le bien, la bienveillance. Si tu agis avec bienveillance, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi domines sur lui. On sait ce qui s'est passé. Hein. Il était pris de jalousie, comme quoi que ça va loin la jalousie. Il était pris de jalousie. Suis-je le gardien de mon frère? Il va se jeter sur son frère. Les deux premières créatures, deux frères, des frères. Hein, je sais pas si vous avez des frères et des sœurs dans la chair, mais moi mon frère, c'est mon frère. Il faut pas le toucher. Hein. C'est notre chair. C'est notre sang, hein. Et lui, si tu agis bien, mais le péché se couche à la porte et puis il va se jeter sur son frère, il va le tuer, etc., etc. On peut citer d'autres exemples. Chapitre 4, verset 24, toujours. Et là, on voit qu'il y a de la bienveillance. Vous savez que ensuite Adam a eu un autre fils. Il est dit au verset 24, Caïn sera vengé 7 fois et les mecs 77 fois. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth, car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Caïn a tué, Seth eut aussi, et là il y a quand même un enseignement à retirer concernant la bienveillance. Seth eut aussi un fils, il appela du nom d'Enoch, c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Il me semble que lorsqu'on va bénir le Seigneur, l'invoquer, le louer, là Dieu va nous manifester ce caractère de la bienveillance. La bienveillance, elle se manifeste quand on invoque le Seigneur, quand on le loue, quand on le prie, quand on se tient à ses pieds. Là, Dieu nous communique cette bienveillance. En tout cas, c'est à partir de là qu'ils ont commencé à invoquer le Seigneur. On a un exemple aussi de bienveillance dans le chapitre 5, verset 21. C'est l'exemple d'Enoch. La biographie d'Enoch est courte. Je regarde la montre. La biographie d'Enoch est courte. Et il est dit que, je résume, Enoch va marcher 300... Enoch marcha avec Dieu, il ne fut plus parce que Dieu le prit. Et Enoch va marcher un certain nombre d'années et il ne fut plus parce que Dieu le prit. La biographie d'Enoch est courte, mais on retrouve dans Hébreux chapitre 11 des références sur Enoch. Il est dit qu'il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu, et ça me parle de la bienveillance, qu'on puisse avoir ce même témoignage. Hein. Et il fait partie des héros de la foi, et Enoch rentre dans cette classe-là de bienveillance. Il a marché avec Dieu, vous savez qu'il ne fut plus parce que Dieu le prit, ça nous parle aussi du retour de Jésus. Et il me semble, en tout cas c'est personnel ce que je vous dis là maintenant, c'est que, on parle de beaucoup de choses, on parle de l'amour, on parle de la paix, etc. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier qu'on doit parler aussi, plus que jamais, du retour du Seigneur. Amen. Amen. Plus que jamais, parler du retour du... Jésus revient. Hein? Amen. Il y a quelqu'un qui a dit, depuis le temps qu'on le dit, il va finir par venir. Hein? Hein? Mais Jésus revient, gloire à Dieu. Et Enoch, c'est un type de l'enlèvement de l'Église. Enoch ne fut plus parce que Dieu le prit. Et un jour, mes frères et mes sœurs, on va quitter. On quitte tout. Amen. On laisse tout. On laisse tout en plan. Non ? On est prêts ? Hein ? Prépare-toi à la rencontre. Et Enoch fait partie de ce type-là de bienveillance. Il a marché avec Dieu. Il n'a pas couru. Il a marché. Ça nous parle de persévérance. Ça nous parle de régularité. Et quand on marche avec le Seigneur, quand on a ce témoignage qu'on est agréable à Dieu, eh bien, il y a cette bienveillance qui vient tout simplement en nous. Que Dieu soit béni. J'avais pris l'exemple de Noé. Là aussi, on voit qu'il y a de la bienveillance et de l'irrégularité. Noé va trouver grâce auprès du Seigneur. Il va construire l'arche pendant une centaine d'années. Et ensuite, il y aura le déluge, on sait ce qui va se passer. Il va rentrer avec ses fils et ses belles-filles et son épouse. Il va y avoir le déluge. Ensuite, il va ressortir. Le texte nous dit dans le chapitre 9, et c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas eu de la bienveillance. Déjà de la part d'un de ses fils, il y avait Sem, Cham et Japhet. Et le texte nous dit que dès qu'il va sortir, Noé, il va planter une vigne. Vous vous rappelez de ce passage ? Et qu'est-ce qu'il va faire quand il va planter une vigne ? Il va peut-être un peu trop appuyer sur le vin, il va le faire bien fermenter, puis il va être sous, il va se retrouver sous dans la tente, etc. Et le texte nous dit, et c'est là qu'on voit que Cham a manqué de bienveillance. Qu'est-ce qu'il a fait, Cham ? Il a vu la nudité de son père, vous vous rappelez de ce passage ? Ça va ? Il a vu la nudité de son père. Et la bienveillance aurait fait que normalement, il aurait fait ce que ses frères ont fait, c'est-à-dire que ses frères sont partis en reculant et ils ont couvert le père. Et la bienveillance aurait fait que lui, sans appeler ses frères, la Bible dit que si ton frère a péché, va reprendre entre toi et lui seul, et si t'écoutes, tu as gagné ton frère, c'est fini, on enterre. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a été voir ses frères et il a été leur dire, etc. Et vous savez que la sentence a été dure ensuite pour Cham. Hein, tu seras l'esclave de tes frères, etc. etc. Il a agi avec... Alors, d'un côté, Noé agit avec bienveillance. Il va trouver grâce, il va construire, il va être obéissant. Et puis, à un moment donné, il va faillir aussi. Et puis, surtout... Cham va pas agir avec bienveillance. Genèse chapitre 12, il est question d'Abraham, là aussi, on voit les deux, l'irrégularité. Abraham, le Seigneur lui dit, tu vas partir de ta maison, de ta patrie, de ton pays, il vient de perdre son père, Genèse 12, je ferai de toi une source de bénédiction, il s'en va, etc., pas de souci, il offre un holocauste, et dès qu'il arrive un problème, qu'est-ce qui se passe ? Mensonge. Il n'y a plus de bienveillance. Il est avec sa femme, et puis il a peur, et tu diras que non, si je suis bienveillant, ben j'affronte. Et lui, tu diras que tu es ma sœur, demi-vérité, c'était sa demi-sœur, enfin bref. Mais seulement, il a menti, et on sait ce que ça a coûté à ce roi qui a voulu connaître la femme d'Abraham, etc. Donc, d'un côté, il obéit, d'un côté, il est bienveillant, et puis, dès qu'il y a une épreuve, au lieu d'affronter, de couvrir son épouse, non, et voilà, il envoie un petit peu comme ça. Genèse chapitre 19, les filles de Lot. Aïe, aïe, aïe. Là, c'est pareil. la bienveillance, il n'y en a pas trop eu. Hein. Déjà, ils obéissent, ils traversent la plaine, et ils ne se retournent pas, la femme de Lot se retourne, bon bref. Et puis ils arrivent, et qu'est-ce qu'ils font? Qui c'est qui va peupler maintenant? Et quand on analyse, quand on fait la synthèse de ce travers, de cet inceste, elles vont saouler le papa, ça c'est, on ne peut pas dire que c'est de la bienveillance. Elles vont le saouler, puis elles vont coucher avec lui, et puis de ces deux naissances, ils vont sortir quoi? Vous vous rappelez? La tribu des Ammonites et la tribu des Moabites. Et quand on lit l'histoire des Moabites et des Ammonites, ça a été comme comme dit Salomon, la mouche qui empoisonne l'huile du parfumeur, ça a été comme le petit caillou dans la chaussure. Ça vous est arrivé d'avoir des... Des fois, on croit qu'on a un rocher dans la chaussure, et c'est rien du tout. Et tout au long de l'histoire d'Israël, à cause de cette malveillance, ils n'ont pas agi avec bienveillance, hein, ça a été un problème avec les Ammonites et les Moabites. Je passais comme ça, simplement en revue, Jacob et Ésaü. Jacob, dès la naissance, là, il le tient par le pied. Ensuite, il lui vole le droit d'aînesse. Il l'achète avec un plat de lentilles. Alors, je sais pas s'il y avait que des lentilles ou il y avait des saucisses de Toulouse ou quoi, j'en sais rien. Mais enfin, il était mort de faim et il donne son droit d'aînesse. Ensuite, il lui vole la bénédiction. Il se déguise, il se met du poil, etc. Et le père le bénit. Ensuite, il se sauve. Hein, il va tricher avec son beau-père, avec Laban. C'est catastrophique. Hein, c'est catastrophique tout ce qui s'est passé. Et il y a eu bienveillance à la fin. Je relisais l'histoire de Jacob. Tout au long de sa vie, ça n'a pas été de la bienveillance. Hein. Mais à la fin, il y a eu un acte de bienveillance quand il va. Et ça, c'est un enseignement pour nous, frères et sœurs, et pour l'Église. C'est qu'à la fin, il va agir avec bienveillance parce qu'il va aller se réconcilier avec son frère. Vous rappelez? Quand il va envoyer tous les troupeaux, etc., etc., et il va se réconcilier. Et il me semble que la bienveillance, c'est aussi de se réconcilier les uns les autres. Si tu te souviens, quand tu es dans l'église, que tu as quelque chose contre ton frère, va et réconcilie-toi et promptement, demande pardon. Et ça, c'est important. Et des fois, on vit comme ça, avec des non-réconciliations, mais la bienveillance nous pousse à la réconciliation. Alors certes, pendant un temps, il était dans l'irrégularité, dans la malveillance, mais à un moment donné, hop, il y a eu ce recours à la bienveillance, et ça a été la bénédiction. Vous savez qu'ensuite, Jacob va combattre avec l'ange, et Jacob, c'est à partir de Jacob qu'il va y avoir les 12 tribus, le peuple d'Israël, etc. Et tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. Enfin, mais il a fallu d'abord la réconciliation, il a fallu d'abord un acte de bienveillance envers son frère. Amen. N'oublions jamais cette réconciliation, cette repentance, ce pardon mutuel. Amen. J'avais pris l'exemple aussi de Joseph et ses frères. Là encore, ses frères. C'est pareil. Les frères, ils vont le vendre, etc. Enfin, il n'y a pas eu de bienveillance. L'époque de Moïse. Et là, j'ai trouvé quand même qu'il y a eu une leçon de bienveillance. Bon, Moïse on sait ce qu'il a fait Moïse au départ, hein, quand il était encore en Égypte, avec l'Égyptien qu'il enfouit dans le sable, etc. Mais ensuite, il va partir dans le désert, il va délivrer le peuple. Et je me suis souvenu, ça, c'est un acte de bienveillance. C'est de la part de son beau-père. Vous vous rappelez qu'à un moment donné, dans Exode 18-18, vous le lirez, Exode 18-18, Jéthro, le beau-père, lui dit, mais il est plein de bienveillance envers son gendre. Et il lui dit, mais si tu continues comme ça, tu vas te fatiguer. Vous vous rappelez de ce passage? Et tu devrais prendre des responsables de 100, de 50, etc., etc. Et là, il va agir avec bienveillance. Et Moïse va être bienveillant envers son beau-père, puisqu'il va l'écouter et il va établir tous ces hommes-là pour conduire le peuple, parce que lui, il recevait les centaines et les milliers de personnes. Il était en train de s'épuiser. Dans le Nouveau Testament, je termine, hein, dans le Nouveau Testament, il y a plein d'exemples de bienveillance. Là, on va regarder que le côté positif. Hein, je pensais à Joseph, la Bible, Joseph, l'époux de Marie. Hein, bientôt, on en a déjà, certainement vous en avez déjà parlé dimanche. Mais il est dit que Joseph était un homme de bien et qu'il a décidé de rompre secrètement et de ne pas la diffamer. Et il me semble que la bienveillance exclut la diffamation. Le fait de parler mal, le fait d'avoir de la rancœur, etc. Et il aurait pu dire, peut-être que si on avait été à la place, je dis, mais qu'est-ce que tu me donnes, Seigneur? Tu me donnes une fiancée, elle est déjà enceinte, etc. Hein, quand on regarde terre à terre ce qui se passe. Et lui, non, il a décidé. Et c'est à ce moment-là que l'ange Gabriel est venu lui parler. Il dira, mais non, l'enfant qu'elle porte elle vient du Saint-Esprit, etc. Il s'appellera Jésus et sauvera son peuple, etc. Mais il a agi avec bienveillance. Et la Bible dit que c'était un homme de bien. Amen. C'était un homme de bien. Gloire à Dieu. Jésus aussi nous enseigne le bien. Pasteur, qu'est-ce que vous dites là? Vous avez votre Bible? Juste cette lecture. Et pourtant, Matthieu chapitre 5, verset 44. Mais moi je vous dis, c'est la grâce ça, hein, mes frères et sœurs. Hein. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Vous avez la même Bible que moi? Bénissez ceux qui vous maudissent et faites du bien à ceux qui... C'est-à-dire, soyez bienveillants. Vous allez dire, pasteur, c'est facile de le dire. Je me le dis moi-même. Hein. Mais Seigneur, le fruit de l'Esprit, le Saint-Esprit nous pousse à la bienveillance. Et il dit, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Les fils de Dieu, ce sont ceux qui manifestent, entre autres, le bien et la bienveillance. Et il dit, faites du bien à ceux qui vous... C'est pas évident, mais en tout cas, Jésus l'a fait. Il a prié pour ses bourreaux. Vous vous rappelez quand il était sur... Alors, vous allez me dire, oui, alors les supraspirituels, oui, mais c'était Jésus, nous, on n'est pas Jésus. Mais on a le même esprit. Amen. Est-ce qu'on a le même esprit? Hein, l'esprit qui a ressuscité Christ est en nous, on le chante et c'est une vérité. Dieu a fait de notre corps le temple du Saint-Esprit. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes et il nous a racheté à un grand prix. Amen. Il a fait de nous une habitation de Dieu en esprit. Et le fruit de l'esprit, c'est aussi manifester cette bienveillance même envers ceux qui vont vous vouloir du mal. Un autre texte, je fais que citer, vous savez, la parabole des talents. 5 talents, 2 talents, 1 talent, je termine. Quand le Seigneur dit, c'est bien, c'est-à-dire tu agis avec bienveillance entre bon et fidèle serviteur dans la joie de ton maître. Et je crois que là aussi, la bienveillance, il y a tout un enseignement là aussi, la bienveillance nous pousse à fructifier le fruit de l'esprit. Hein, tu as eu 5 talents, eh bien, il en a apporté 5 autres, 2, etc., etc. Acte chapitre 11, je tenais à le lire celui-là. Allez, il est question de Barnabas. Barnabas est un... vous savez ce que signifie Barnabas, hein? Vous vous rappelez? Acte 11, juste le verset 23. Lorsqu'il fut arrivé, il est question de Barnabas. Il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit, il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. C'était un homme de bien, plein du Saint-Esprit et plein de foi. Et vous savez ce que signifie Barnabas? Fils d'exhortation. Amen. Il me semble que la bienveillance, là aussi, nous pousse à être des fils. Soyez, mes frères et mes sœurs, soyez des fils et des filles d'exhortation, des hommes et des femmes qui encouragent. Amen. Qui tirent vers le haut. Je le disais dernièrement dans quelques églises où j'ai été, c'est tellement facile. C'est facile, hein? Vous avez vu, il y a eu l'inauguration de Notre-Dame de Paris. Vous avez vu? Et je riais parce que je crois que c'était c'était un samedi et le dimanche, je prêchais à la Seine. Et ils ont montré la forêt de poutres qu'il y avait en haut. Je ne sais pas si vous avez vu. Alors ils ont choisi les arbres, etc. Ils les ont travaillés. Et je me dis, Seigneur, des fois, nous, on a des forêts de poutres dans nos yeux et on va voir la paille qui est dans l'œil, un petit peu comme la Notre-Dame. Hein. que Dieu nous aide à manifester la bienveillance et à tirer tout. C'est tellement facile de tirer vers le bas. C'est tellement facile de voir le défaut de l'un et de l'autre. Mais qu'on puisse, la bienveillance, c'est de faire le bien à autrui. C'est le bien de, c'est le faire le bien à son frère, à sa sœur, d'aimer son prochain comme soi-même. C'est ça la bienveillance, tout simplement. Hein, et ne pas s'arrêter sur à titiller sur une chose et une autre. Et ça, ça ne fait pas avancer. Je partage simplement, hein, c'est vraiment fraternel ce que je dis, hein, mais ça ne fait pas avancer l'œuvre de Dieu. Hein. Et notre tendance, des fois, eh bien, elle est là, des fois on n'est pas bien, alors on va broyer du noir, etc. etc. Qu'on puisse être comme Barnabas, hein, avoir cette bienveillance. Et porter vraiment le fruit de l'esprit qui est la bienveillance. Gloire à Dieu. Allez, je termine en conclusion Romains 2:7. Je saute quelques passages. Il est écrit ceci dans Romains. C'est ma conclusion. C'est mon dernier verset. Il réserve Romains chapitre 2 verset 7. Il réserve la vie éternelle à ceux qui par la persévérance à bien faire cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. La persévérance à bien faire, qu'on puisse bien faire, avoir de la bienveillance. Voilà ce que je voulais simplement partager avec vous concernant le fruit de l'esprit qui est la bienveillance. Après la bienveillance, il y aura la foi. Alors ça, c'est facile à parler, la foi. Il y en a des textes, il y a des centaines de textes sur la foi. Hein, mais la bienveillance, c'est encore autre chose. Que le Seigneur nous aide à pratiquer le bien, surtout le bien envers les frères et envers les sœurs.